Voilà. Bonne présidence qui éclaire notre sentier, qui nous fait du bien. C'est une grâce. La deuxième grâce après Tobias. Bon, bonjour à vous tous et toutes, donc frères et sœurs de l'Église évangélique de Vendeuvre, et puis à vous, amis de passage. Il y en a peut-être ce matin. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois dans l'Église? Non? Bon. Donc soyez tous les bienvenus, et j'aimerais ce matin vous accueillir pour ce temps de prédication par ces très belles paroles du psaume 115, verset 13. « Soyez bénis, vous qui craignez l'Éternel, les petits et les grands, l'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » C'est pas beau ça? Amen. Voilà, que notre Dieu ouvre à présent nos cœurs et nos oreilles et qu'il nous accueille dans sa grâce débordante et sans limite. Amen. Amen. Alors j'aimerais réfléchir avec vous ce matin sur une exhortation adressée par l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. Et bien sûr à travers elle, parce que c'est intéressant aussi pour nous, nous faire réfléchir sur nous-mêmes, sur qui nous sommes. Et je pense que ce sera intéressant. 1 Corinthiens 14, 33, alors là, « Dieu n'aime pas le désordre, c'est un Dieu d'harmonie et de paix. » Alors l'harmonie, c'est un savant mélange entre l'ordre et l'unité. Il poursuit en disant, « Et Dieu se manifeste comme tel dans toutes les assemblées de ceux qui ont consacré leur vie, qui lui ont consacré leur vie. » Donc, dans notre église, par exemple. Paul s'adresse à l'église de Corinthe qui a tendance à exercer le service cultuel et puis les dons spirituels dans un désordre absolu. Ce que Paul dénonce. Frères et sœurs, chers amis, voilà un scoop. Le Dieu d'ordre, d'unité et de paix a en horreur le désordre dans le monde, dans nos vies, dans l'Église, et c'est pourquoi nous allons le voir, il est un modèle pour nous de paix, d'unité et d'ordre. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais quand je pense et quand je prononce le mot « ordre », je pense aussitôt à Edith Simon. Alors, c'est notre très chère sœur responsable du ménage dans l'Église que je remercie ce matin. Hein, parce que c'est important. Et plus personnellement, quand je pense au mot « ordre », je pense à Wardia, ma très chère épouse. Bon, elle est pour là ce matin, je peux dire pas mal de choses. Pas de mal, mais je peux dire pas mal de choses. J'étais encore célibataire et j'avais deux gros cartons dans un coin de ma salle à manger où je rangeais mes livres et je rangeais mes papiers. Lorsque Wardia est venue pour la première fois, hein, j'avais invité chez moi, elle m'a dit « Mais c'est quoi, Daniel, ces deux gros cartons qui traînent dans la salle à manger? Ça fait désordre !» Franchement, quand vous invitez votre petite amie pour la première fois, c'est une remarque qui calme vos ardeurs, mais ça m'a fait réfléchir sur moi-même, et depuis, je n'ai plus jamais laissé traîner deux cartons dans la salle à manger. Bon, ailleurs, oui, mais pas dans la salle à manger. Non, ça m'a calmé. Frères, sœurs, chers amis, avez-vous encore des cartons qui traînent dans vos vies, qui mettent du désordre dans votre existence et dont vous aimeriez bien vous débarrasser? Ce sera l'objet de la deuxième partie du message de ce matin. Alors, le message sera fait en deux parties. Il y a une partie où le Seigneur il nous explique ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous, et puis une deuxième partie sur nos cartons. Ça ne sera pas triste. Dès l'origine, nous trouvons dans le caractère de Dieu ces trois belles perles que sont l'unité, l'ordre et la paix. Alors, si je vous pose la question ce matin, préférez-vous vivre dans un climat d'unité, d'ordre et de paix, ou au contraire, baigner dans un milieu où règne division, désordre et conflit? Alors, j'ose espérer que personne ne choisira de me répondre le désordre, j'espère. Personne. Bon, d'accord, c'est bien. J'allais chercher ma petite fille Livia à l'école, Et puis là, je croise le grand-père de Lola, hein, la meilleure copine d'Olivia, qui me dit « Ouah, on n'en peut plus de cette pagaille politique en France, du laxisme de nos élus. Ils sont incapables de s'entendre sur rien. » Il était complètement furax, le grand-père de Lola. Le désordre ambiant perturbait grave l'équilibre de sa vie et lui enlevait sa paix intérieure. Il m'a interpellé. La question fondamentale qu'on est en droit de se poser est d'où vient le désordre et comment en sortir? Ce qui est incompréhensible pour la plupart des gens, c'est comment expliquer qu'il y ait autant de désordre dans le monde alors qu'il a été créé par un Dieu d'ordre, d'unité et de paix? Je pense que c'est une bonne question. Mais il y a encore plus incompréhensible, plus encore. Comment nous, chrétiens, qui devrions être des exemples, pouvons-nous vivre dans nos existences, dans nos églises, des tensions, des divisions, des conflits, des désordres de toutes sortes, alors que nous sommes enfants de Dieu? Vous savez, avec Cordia, il y a des fois on n'est pas à l'église ici, parce que on est allé assister au baptême de la sœur de Wardia, donc dans l'église de Voipy. Et puis là, dans l'église de Voipy, je rencontre Serge et Laurence Busson, les parents d'Émilie. Puis Serge, c'était un ancien avec moi dans l'église il y a quelque temps. Ben, je dis à Serge, mais Serge, je crois qu'Émilie m'avait dit que tu étais à l'église de Saint-Dié. Qu'est-ce que tu fais là? Et Serge, il me dit, ah ben non, mais l'église de Saint-Dié, ils sont séparés, ils se sont divisés à cause du ministère pastoral féminin. Oh. Alors, moi, à ce que je sache, je ne savais pas que la division, frères et sœurs, faisait partie des attributs de Dieu. C'est un désordre. C'est un désordre, la division. Alors, pour trouver des réponses aux questions que nous avons posées, il ne faut pas hésiter à remonter jusqu'aux origines du monde, quand tout a commencé aux temps anciens de la création. Lorsque Dieu, dans son plan d'amour, nous a révélé sa vraie nature. Pour vivre dans l'ordre, l'homme, le chrétien, ne peut pas se dissocier du plan de Dieu. Ce n'est pas possible, s'en écarter, c'est ouvrir la porte au désordre. Alors nous allons voir déjà, dans un grand A, la révélation d'un Dieu unitaire. Parce que vous savez que l'unité, ça amène à l'ordre. L'unité est une vertu qui fait rêver. Elle peut paraître totalement utopique, voire irréalisable, dans nos sociétés divisées, où les divorces explosent, les conflits pullulent. Pourtant, Jésus non seulement l'a pratiqué, mais en est le modèle de l'unité. Jean 10, 30, « Moi et le Père, dit Jésus, nous sommes un, nous sommes unis. » Voilà, ça fait rêver l'unité. Mais l'unité aussi crée la paix. Si nous nous transportons dans le premier livre de la Bible, la Genèse au chapitre 1, qui donne l'origine de la création, nous voyons que l'unité est le mode de fonctionnement de Dieu. Genèse 1, versets 1 et 2, par exemple. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, et Dieu dit alors, « Que la lumière soit, hein, Sophie, et la lumière fut. » Dieu vit que la lumière était bonne. Si on lit ce texte d'une manière superficielle, on n'y voit aucune trace d'unité, car c'est Dieu qui fait tout. Or, si on étudie les termes du texte, on y voit trois personnes différentes sous le même terme de Dieu. Alors, l'expression utilisée ici pour Dieu est Elohim, qui est un pluriel de Eli. Les dieux, mais qui est suivi d'un verbe au singulier, bara, créa. Donc on a les dieux créa le ciel et la terre. La Bible révèle bien trois personnes dans Elohim. Dieu le Père, qui est le maître d'œuvre, le donneur d'ordre. Dieu le Saint-Esprit, qui plane au-dessus des eaux, il supervise les travaux. Et Dieu le Fils, qui est la parole créatrice, la lumière fut. L'apôtre Jean, dans le premier chapitre de son évangile, écrit en parlant de Jésus, Jean 1, verset 3, « Tout a été créé par lui, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. » C'est lui qui a tout créé. Donc Jésus est donc bien la parole créatrice que nous a annoncée Sophie ce matin. Cette unité divine a pour vocation d'être transmise au couple humain. Vous savez, Genèse 1, 27, Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Les hommes et les femmes ont été créés pour qu'ils vivent dans l'unité, dans le monde, mais aussi dans l'unité par le mariage. Genèse 2, 24, l'homme s'attachera à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. Enfin, le projet éternel de Dieu, sa volonté profonde, c'est de créer une unité parfaite entre Dieu et les hommes. Vous savez, dans la prière sacerdotale que Jésus lance au Père, dans Jean 17, 21, il dit « Je te demande, Père, je te le demande, qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous. » Vous voyez, c'est ça l'unité. C'est ça la vraie unité. Frères, sœurs, ceux qui s'attachent à Dieu, qui vivent l'unité avec Dieu, sont des artisans d'unité dans le monde. La société, l'Église et dans le couple. Voilà. Frères, sœurs, travaillons-nous notre relation d'unité avec Dieu. Est-ce qu'on travaille ça? Pour être artisans d'unité dans nos vies et donc de paix. Alors ça, c'était l'unité. Mais maintenant, grand B, la révélation d'un Dieu d'ordre. Ordre, le mot ordre, il y a trois sens au mot ordre. Premièrement, ordre comme donneur d'ordre, comme autorité. Vous voyez ? Quand j'étais tout jeune, nous on jouait au foot dans la rue, on n'avait pas de terrain, on jouait dans la rue. Et sans arbitre. Le plus souvent, les matchs débutaient bien, mais se terminaient souvent en bagarre. Hein ? Quand il n'y a pas d'autorité, eh bien, il y a du désordre. Et donc, il y a une absence de paix. Voilà, l'autorité crée l'ordre et la paix. Dieu le Père, c'est l'autorité suprême à laquelle même le Fils se soumet. Hein, dans Jean 14, 28, on trouve ceci, Jésus dit « Le Père est plus grand que moi. Dieu le Père est à l'origine de tout, c'est lui qui décide. Mais dans l'unité, avec l'accord du Fils et du Saint-Esprit, il ordonne et la parole obéit, elle s'exécute. » Voilà, la lumière fut. Dieu n'est pas une autorité qui impose, c'est une autorité qui ordonne. Dieu est une autorité apaisante, bienveillante, mais qui doit être respectée, à laquelle tout être devrait obéir et toute création devrait se soumettre pour être dans l'ordre voulu par Dieu. Pourtant, on en est très loin. Hein, vous voyez le monde dans lequel on vit. Dieu le Fils, lors de sa venue sur terre, il parlait aussi avec l'autorité du Père. Luc 4, 32. Les auditeurs de Jésus étaient surpris, profondément impressionnés par son enseignement, car il parlait avec autorité. Jésus nous dit, Paul, en Éphésiens 5, 23, « Il est le chef, il est la tête de l'Église qui est son corps. » Eh bien, dans l'Église, le chef, ce n'est ni le pasteur ni les anciens à qui nous devons obéir, mais à Christ, à sa sainte parole. C'est lui qui est l'autorité de l'Église. Les pasteurs et anciens sont les représentants de l'autorité du Christ. Alors, frères, sœurs, se soumettre à Christ, c'est se soumettre à Dieu. Qu'est-ce que cela signifie, se soumettre à l'autorité de Dieu ? C'est renoncer à soi-même, à ses projets, à ses pensées, pour adopter ceux de Dieu. En 1972, j'ai appris à me soumettre à une autorité supérieure. Je faisais mon service militaire pour ma première permission, parce que, vous savez, au bout des classes, on a sa première permission. Eh bien, je m'étais fait couper les cheveux assez courts. Ah ben, ça fait... Hein. Le matin de la sortie, le sergent-chef fait dans la cour de la caserne la revue d'effectifs. Deuxième classe pour teint, cheveux trop longs. Ah ben bon. Voilà, vous avez une heure, sinon permission supprimée. Et là, les amis, il n'y a pas intérêt à venir et à lui poser des questions ou à réclamer. Hein. On exécute et on obéit. Deuxième place pour teint, le lit n'est pas fait au carré. Oh bon ? Pensez, moi je faisais même pas le lit à la maison. J'étais déjà content du lit que j'avais fait. Il n'était pas au carré. Deux heures de corvée de feuilles. C'était la corvée punition la plus débile que j'ai jamais rencontrée, parce que il fallait ramasser des feuilles, mais il en tombait toujours des arbres. Bon. Jacques 4,7 dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. » Frères, sœurs, avez-vous fait de Christ, de Dieu, l'autorité suprême de votre vie? Celui qui est au-dessus de votre volonté et de vos pensées. Est-ce que vous avez fait de Dieu vraiment votre Seigneur? Et puis, le deuxième sens de ordre, c'est ordre comme l'autorité qui responsabilise. André Suarez écrivait cette belle phrase, alors écoutez bien, « Le désordre est bien puissant quand il s'organise. » C'est extraordinaire comme phrase, mais elle est vraie en plus. Frères, sœurs, le désordre ne vient pas de Dieu. Afin de ne pas permettre au désordre de s'installer, eh bien Dieu, dès l'origine, on a coupé les deux racines. L'inactivité et l'ennui, hein, quand on s'ennuie, ben, on fait du désordre. Et puis le laxisme et la permissivité, hein, quand tout est permis, ben, on s'engage dans le désordre. Le Dieu d'ordre donne trois grandes responsabilités à l'homme. En Genèse 2, verset 5, il le rend responsable d'entretenir et garder l'endroit où il vit et que Dieu lui a confié, c'est-à-dire le jardin d'Éden. Donc l'homme est donc responsable de gérer et préserver la création de Dieu, hein, la nature. L'homme est aussi responsable de cultiver et entretenir sa relation avec Dieu, à prendre des responsabilités dans le lieu spirituel qu'il a créé pour nous, l'Église. Alors, est-ce que vous êtes engagé dans le jardin spirituel qu'est l'Église du Christ? Est-ce que, ce matin, on peut se poser la question, est-ce que je suis engagé dans l'Église? Est-ce que ça m'engage? Enfin, et ce n'est pas le moins important, l'homme est aussi responsable devant Dieu de son couple et par extension de sa famille. Ça, c'est une responsabilité importante. Genèse 2, 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront tous les deux une seule chair. Alors l'homme est responsable de briser le lien de dépendance avec la famille. C'est important, hein, pour construire. L'homme est responsable de la solidité du couple. Le verbe s'attacher, il est fort. C'est se lier pour la vie. Voilà pourquoi le choix d'une épouse ou d'un mari est vraiment important. Il faut bien faire attention. Quand on se lie, quand on s'attache, c'est pour la vie. L'homme aussi est responsable de l'unité physique et spirituelle du couple, mais aussi de sa famille. Le Dieu d'ordre veut des hommes qui soient des exemples dans leur couple et non des maris et des pères démissionnaires. C'est par soumission à Dieu qu'on y parvient à peu près. Hein, parce qu'on n'est pas non plus des personnes parfaites. Alors, le Dieu d'ordre va responsabiliser l'homme en le plaçant face à l'interdit. Genèse 2,16. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est l'interdit. Franchement, frères et sœurs, si Dieu avait voulu préserver l'homme, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait fait pousser l'arbre au sommet d'une montagne inaccessible, et puis l'homme, il n'aurait pas pu y toucher. Ou alors il aurait mis un mur infranchissable, comme les murs de Jéricho, autour de l'arbre. Alors pourquoi il a fait ça? Dieu veut confronter l'homme à l'interdit. Il s'agit d'une mise à l'épreuve afin d'évaluer la sincérité de son cœur, de son engagement pour le faire grandir dans sa relation avec Dieu. Dieu veut qu'Adam obéisse. C'est pourquoi il lui laisse la liberté de choisir et de désobéir. Ben, nous, c'est pareil. Il aurait pu nous retirer du monde, Dieu. Il aurait pu faire de nous des gens protégés, isolés. Mais pourquoi des fois on est dans l'adultère, dans d'autres choses? C'est parce que Dieu nous met, nous confronte à l'interdit. Alors Dieu veut qu'Adam obéisse, et voilà, c'est pour ça qu'il lui laisse le choix de désobéir. Frères, sœurs, faisons attention à nos choix. C'est important. Galates 5,13, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés, dit Paul. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de la chair. Écouter les désirs de la chair mène au désordre et nous prive de la paix avec Dieu. Alors, l'interdit, et ça c'est important, n'a de sens et d'intérêt que s'il est accompagné d'une sanction et que cette sanction est adaptée à l'interdit. Genèse 2,17, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Voilà. Donc, si tu fais la faute, eh bien, il y a la sanction. La sanction n'a elle-même de sens et de valeur que si elle est appliquée et comprise. Alors, je parle beaucoup de moi ce matin, mais je parle de moi parce que c'est des exemples que je connais et je sais qu'ils sont vrais. Et ça c'est un exemple, j'ai honte, mais je le dis quand même. Quand j'étais petit, je me mettais souvent en colère. Mes parents me disaient, Daniel, arrête de te mettre en colère tout le temps. Bon, mais ça me mettait en colère. À Noël, j'avais commandé un garage avec 10 voitures miniatures. J'en avais très envie et mes parents m'ont dit, Daniel, on te prévient, chaque fois que tu fais une colère, ça sera une voiture en moins. Et je dis, mon œil, de toute façon, mes parents, je les connais, ils sont trop gentils, ils ne le feront pas. Eh bien, à Noël, j'ai eu un garage avec 3 voitures. Mais ça c'est important. Moi, ça m'a calmé. Ça m'a calmé. Et puis, troisième ordre, ordre comme faire dans l'ordre, faire avec ordre. Dieu n'est-il pas le Tout-Puissant? C'est vrai, il est le Tout-Puissant. En un claquement de doigts, il aurait pu créer tout le monde d'un seul coup. Pourtant, ce n'est pas cette option qu'il a choisie. Il a procédé par étapes et par ordre, en partant de la matière brute, c'est-à-dire la terre, pour terminer par sa pièce maîtresse, l'être humain. En procédant ainsi par ordre, par étapes, Dieu va produire en nous trois choses. Et ça, c'est des choses qui sont importantes. Premièrement, la patience. On parlait ce matin avec Carmela de la patience. Mais la patience, Dieu ne donne pas tout de suite. Il répond à nos prières en son temps. Il donne au moment favorable. Il exerce en nous la patience et la persévérance. Ça, c'est important. Et puis, deuxièmement, la frustration. Dieu a créé l'homme au début sans la femme. La frustration crée en lui le désir et le besoin et la valeur. On donne plus de valeur à ce qu'on a attendu. Moi, j'ai attendu Ward il y a 3 ans, ça m'a donné vraiment... elle avait de la valeur à mes yeux. Dieu ne veut pas faire de nous des enfants gâtés, des enfants rois. Je veux, il me faut, j'exige. Vous voyez, par exemple, la sanctification, qui est le travail et l'œuvre de transformation, de reconstruction dans nos vies, effectuée par le Saint-Esprit. Eh bien, c'est un long chemin de construction spirituelle, parsemé d'épreuves, et qui se fait tout au long de notre vie. C'est ainsi que nous grandissons dans l'ordre. Et puis, alors ça, il y a une chose aussi qui est importante, vous allez voir dans vos vies, les promesses divines. Elles sont simples, les promesses divines, mais des fois mal comprises. Elles suivent aussi un ordre qu'il faut suivre. Par exemple, le Proverbe 16,3. « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Qu'est-ce qu'on fait, nous? La plupart du temps, on s'engage dans des œuvres et puis on dit « Seigneur, tu bénis mon projet. » Ce n'est pas du tout ce que Dieu il demande. Moi, personnellement, je suis heureux de ce que l'Église a pris une journée de jeûne et de prière pour remettre à Dieu un projet, et puis seulement après, nous sommes engagés dans la recherche d'un pasteur. Voilà, ça c'est le bon ordre à suivre. Alors ça crée aussi Troisièmement, l'émerveillement et la gratitude. L'ordre, l'attente, l'exaucement créent en nous l'émerveillement et la gratitude. Merci Seigneur pour ce que tu me donnes. Merci Seigneur. Frères, sœurs, vous le voyez, suivre et vivre dans l'ordre tracé par Dieu, marcher dans l'unité avec lui, nous remplit de joie, de paix et de bonheur. Et moi, je me souviens tout le temps du psaume 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça, c'est vraiment un passage qui est vrai. Alors hélas, tout ça, ce qu'il faut faire, ce que Dieu nous appelle à faire, l'unité, l'ordre, la paix, hélas, un grand coup de tonnerre, un puissant tremblement de terre spirituel va venir ternir cette douce quiétude, cette unité paradisiaque. Satan, l'archange déchu, l'incarnation du mal, s'attaque à Adam et Ève en prenant l'aspect d'un serpent. Il les pousse à la faute, il les conduit à la désobéissance. Genèse 3, versets 6 et 7, « Elle prit du fruit de l'arbre, elle en donna à son mari, et il en mangea aussi. » On pourrait penser, croquer dans un petit fruit, une petite désobéissance de rien du tout, une petite gourmandise, mais ce n'est pas grave. Et est-ce que vous connaissez, frères et sœurs, la pub de Carglass ? J'y passe à la télé. J'aime bien la pub là, mais elle me parle. Un couple est dans une voiture, un gravillon vient percuter le pare-brise, et le mari dit à sa femme, « Oh, c'est rien, c'est comme petit pète. » Vous vous rappelez de ça ? Alors le monsieur de Carglass intervient, « Non, pas du tout. Si vous attendez, le pare-brise va se briser. » Frères et sœurs, un péché, une désobéissance, a toujours de graves conséquences dans nos vies. Surtout lorsqu'on les cache et qu'on persiste dans le déni, quand on ne veut pas que ça se sache. Et là, moi, j'ai lu une perle récemment dans ma lecture quotidienne de Job 31-33. Au début, je croyais que, c'est vrai, Adam et Ève avaient péché, mais je disais, Dieu, il est dur quand même. Mais voilà ce que dit Job. « Ai-je comme Adam caché ma transgression ?» C'est pas simplement d'avoir péché, il a caché sa transgression, cherché à dissimuler ma faute, parce que je redoutais le qu'en dira-t-on et le mépris des autres. J'ai gardé le silence et j'ai refusé de sortir de moi. Voilà. C'est ça, le déni, cacher sa faute. Frères, sœurs, nous sommes chrétiens, nous vivons en paix avec Dieu. Nous croyons que rien de mauvais ne peut nous arriver. Et voilà qu'une ruse satanique... il nous fait tomber. 1 Corinthiens 10, 12, « Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Il n'y a personne qui est à l'abri. Tomber dans le péché, personne n'est à l'abri de tomber. Patatrac, le bel ordre installé par Dieu va faire place au désordre. La belle unité en Dieu explose et se transforme en division, en séparation. Même la paix devient lutte et amertume. Peut-être y a-t-il parmi nous ce matin des personnes qui vivent cette situation avec Dieu. Peut-être des personnes qui vivent en eux, qui sont peut-être actuellement enlisées dans un péché qui brise leur vie de relation avec Dieu, leur ordre intérieur et leur paix profonde. Adam et Ève découvrent à présent les effets, les conséquences désastreuses de leur désobéissance. Dieu les avait avertis, il avait dit à Adam... Genèse 2, 17, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » L'apôtre Paul nous rappelle, dans son épître aux Romains, que le péché a un prix exorbitant à payer. Romains 6, 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Et c'est grave. La mort est spirituelle, bien sûr, on meurt rarement directement du péché. Ils sont morts dans leur relation avec Dieu. Elle est coupée, brisée, ils se cachent loin de la face de Dieu. Pour nous, chrétiens, lorsque nous tombons dans le péché, nous avons la tentation, des fois, de quitter l'Église, comme ça je quitte l'Église, personne ne peut me poser des questions, de nous cacher des frères et sœurs. Pourtant, le Dieu d'ordre a placé en nous une boussole qui est la conscience. La conscience interpelle le pécheur dans son cœur profond. Vous vous rappelez de cet épisode de Jésus ? Jésus, il se place un jour en face des religieux juifs qui veulent lapider une femme adultère. Et que leur dit-il ? Eh bien, il leur dit que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. La conscience, elle nous interpelle. Mais le Saint-Esprit qui est en nous, lui, il nous parle. Voilà, il y a deux choses qui sont en nous et qui nous parlent. J'ai encore parlé de moi. J'étais tout jeune chrétien et Dieu m'avait demandé clairement de me séparer de la jeune fille avec laquelle je vivais en concubinage. Et consciemment, parce que je ne voulais pas faire ça, eh bien, j'ai désobéi en l'invitant au restaurant. Car je voulais garder contact avec elle. Et je vous assure que quand je suis rentré chez moi, j'ai été envahi par une immense tristesse. Je pleurais profondément, je n'arrivais plus à m'arrêter. J'avais attristé le Saint-Esprit qui avait fait son temple en moi. J'ai demandé pardon à Dieu et la tristesse m'a quitté. Mais je n'ai plus jamais recommencé parce que c'est trop dur de vivre ça. La conscience, elle, nous accuse, nous culpabilise. Mais nous pouvons faire mauvais usage ou bon usage de la culpabilité. Alors, le mauvais usage, ça nous amène à ne pas affronter la vérité sur notre péché. On pense qu'en se cachant de Dieu, des autres, on règle la situation. Vous croyez que l'autruche, quand elle met la tête dans le sable, on ne la voit pas, hein ? Non, c'est folie. Comment peut-on imaginer se cacher d'un Dieu omniscient qui connaît tout, qui voit tout ? Il nous voit dans tout ce que nous faisons. L'autre mauvais usage de la culpabilité, et ça, on le voit couramment dans le monde dans lequel on vit, c'est de reporter la faute sur Dieu, sur les autres. Adam dit, oh, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de la femme, et en plus il accuse Dieu, que tu as mis à mes côtés. Si tu n'avais pas mis à mes côtés, j'aurais pas eu de problème. Ève, elle se victimise. C'est de la faute au serpent, il m'a trompé, moi j'y suis pour rien. Frères, sœurs, chers amis, le déni, la dissimulation, la fuite, non seulement n'arrangent rien, mais sont un obstacle au pardon. Alors, il y a un bon usage de la culpabilité. Ce bon usage nous amène, au contraire, à affronter la vérité en face, à reconnaître notre faute. C'est typiquement l'exemple du fils prodigue dans la Bible. Ce fils revient à la maison après avoir dilapidé l'héritage de son père avec des prostituées. Ben, c'est pas rien, Vous vous rendez compte, Tobias, si tu faisais ça, toi. Alors, Luc 15, 21, le fils dit à son père, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Rendez compte comment, quel courage il a, quelle lucidité sur lui-même. Affronter son péché, reconnaître sa faute, c'est venir à la repentance. Il y a un chemin de repentance. Le chemin de repentance vient de l'homme sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est lui qui décide de venir à la repentance, mais c'est le Saint-Esprit qui l'y pousse. Il se fait en 5 étapes. Il commence par le regret d'avoir offensé Dieu. Il se poursuit par la confession du péché et l'abandon du mal, dans une complète soumission à Dieu, et se termine par la volonté profonde de persévérer, c'est-à-dire de ne plus recommencer. Ce matin, il y a peut-être parmi nous des frères, des sœurs, des amis qui sont prisonniers d'un péché et qui ont besoin de passer par le chemin de la repentance qui seul peut les libérer et les délivrer. Frères et sœurs, quand on vit dans le péché et que l'on n'est pas passé par le chemin de la repentance, on reste le jouet de Satan qui, lui, est le prince du désordre, de la division et de la manipulation. Spirituellement, Satan, le maître d'orchestre du péché et du désordre, a sur nous, chrétiens, le pouvoir qu'on lui donne. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'a plus de pouvoir sur nous, mais on peut lui en donner du pouvoir. En ne reconnaissant pas notre péché. Tant qu'on ne passe pas par le chemin de la repentance, on subit les assauts douloureux de Satan. Alors, je vais vous donner un dernier exemple sur moi. Et c'est peut-être le pire des exemples. Il y a 10 ans, je suis personnellement passé par le chemin de la repentance. Et j'ai vécu une grande et belle délivrance. Alors, vous le savez toutes et tous, avant notre conversion, nous avons vécu dans ce monde de désordre qui nous a contrariés et qui nous a contaminés par le péché. Alors, lors de ma conversion, c'est vrai, j'ai été purifié par le sang du Christ, lavé de mes péchés, ma vie a été complètement transformée et je ne pratiquais plus aucun des péchés qui avaient impacté ma vie dans le monde auparavant. Cependant, dans ma vie transformée, une pensée perverse, un fantasme sexuel, venait de manière récurrente perturber ma vie. Et ça, j'y pouvais rien, surtout lorsque je préparais mes prédications. Ça venait et ça m'envahissait. Frères, sœurs, j'ai essayé de m'en débarrasser, mais vraiment, je me suis battu en prenant autorité. Au nom de Jésus-Christ, je chasse cette pensée. Et bien, cette pensée partait, hein, comme on chasse les mouches, et puis elle revenait encore plus forte en moi. Alors là, j'étais désespéré, et je disais, mais comment je peux faire? Pendant des années, j'ai dû demander pardon à Dieu à cause de cette pensée perverse, et toutes les fois qu'elle triomphait de mes résistances. Parce que des fois, elle a triomphé de moi. Un jour, je pense, dirigé par l'Esprit, j'ai dit, Seigneur, j'en peux plus, j'ai honte, car non seulement cette pensée salit la sainteté, ta sainteté à toi, mais aussi me salit et salit mon épouse. Je te supplie de m'en libérer, car elle perturbe ma vie, mon témoignage aussi. Voilà, j'ai fait ça. Et frères et sœurs, j'étais dans mon bureau, quand j'ai fait cette confession et cette prière, et puis je suis sorti dans le couloir, et là j'ai senti comme un poids qui sortait de mon corps. Et là, j'ai crié, « Merci Seigneur, je suis libéré, je suis délivré, j'ai vécu vraiment la libération, c'est comme si un poids était sorti de moi. » Cette pensée, frères et sœurs, n'est jamais revenue. Quand Dieu libère, c'est une vraie et totale libération. Mais il faut passer par la repentance, il faut avoir le courage d'y aller et de dire, « Oui Seigneur, libère-moi. » Alors peut-être, je pose encore cette question ce matin, êtes-vous encore prisonnier de la pornographie peut-être, du mensonge, de la colère? Vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un? Je vous invite à entrer dans ce chemin de repentance devant Dieu qui peut seul vous en libérer. Adam et Ève avaient péché contre Dieu et Dieu le savait, mais Dieu a pourtant fait le premier pas vers eux, en venant à leur rencontre dans le jardin et en leur parlant. Vous voyez, un père, il peut très bien dire, « Ah, oh, bah, t'as péché, non, mais je ne veux plus te voir dehors, terminé. » Non, non, il vient encore le soir, il lui pose la question. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait le soir dans le jardin, et l'Éternel Dieu appela l'homme, « Où es-tu » Vous vous rendez compte, où es-tu? Il savait où il était, hein. Dieu n'abandonne jamais l'être humain, même lorsqu'il tombe dans le péché. Dans une vie de désordre, il lui tend toujours la main. Il l'appelle à la repentance afin de pouvoir lui pardonner et le reconstruire dans l'ordre. Il l'a fait, frères et sœurs, en Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Voilà. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous êtes réconcilié avec Dieu ce matin? Merci pour votre écoute attentive et n'hésitez pas à venir me voir à l'issue du culte si vous avez des questions à me poser. Voilà, je vais prier maintenant.